Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. L'année 2003, l'Académie des sciences morales et politiques a été consacrée à quelques grands personnages et caractères du 15e au 20e siècle. Souverains ou grandes figures de notre littérature, héros de notre histoire ou bien monstres honnis et haïssables, chaque lundi, des universitaires, des spécialistes se sont employés à lever le voile sur des personnalités, à présenter des biographies, comme l'on dit, où peuvent se côtoyer le pire comme le meilleur. Comme l'expliquait Denis Maraval, directeur littéraire aux éditions Fayard, c'est à la fin des années 1970 que la biographie a retrouvé droit de cité en France. Fayard fut un des vecteurs de ce renouveau et le genre fait aujourd'hui florès puisque beaucoup d'éditeurs accordent désormais une importance à cet exercice d'histoire. L'Académie des sciences morales et politiques, attachée à la transmission du savoir qu'elle cultive sous la coupole, publie aux presses universitaires de France une année de communication, ceci sous la direction d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Ce livre s'intitule « Personnages et caractères 15e-20e siècle ». Ce travail a donc été dirigé par Emmanuel Leroy-Ladurie que je reçois à ce micro, au micro d'Un jour dans l'histoire. Emmanuel Leroy-Ladurie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez occupé de nombreuses fonctions au sein de l'université et autres instituts de recherche. Vous présidez le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale. Cet institut, en tous les cas le conseil scientifique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dernièrement une histoire du climat publiée chez Fayard. Et vous avez réuni les communications de l'année 2003 consacrées aux personnages et aux caractères du 15e au 20e siècle. Alors, et ça sera ma première question, Emmanuel Leroy-Ladurie, comment s'opère le choix d'une telle thématique à l'Académie des sciences morales et politiques? C'est vous, en tant que président, qui décidez de ce choix?
Le président a effectivement le choix et j'en ai informé mes responsables, notamment le secrétaire perpétuel, M. Cluzel, qui m'a dit « il n'y a pas assez de femmes dans votre choix ». Alors j'en ai ajouté deux ou trois, et puis je crois qu'il était satisfait. Mais j'étais très libre, et en effet, bien que je ne sois pas un biographe, et que je ne fasse pas de la biographie le tout de l'histoire, je crois que ça n'est vraiment qu'une partie, il m'a semblé que c'était assez commode de présenter non pas une biographie, bien sûr, ça aurait été impossible, mais une collection, ou comme on dit quelquefois, une prosopographie, un ensemble de biographies.
Alors, l'histoire évidemment du 15e, l'histoire universelle du 15e au 20e siècle offre de grands choix de personnalités. Est-ce que ça a été difficile de justement choisir, de retenir tel ou tel personnage plutôt que tel autre?
Ben, pas tellement, parce que c'était moi le patron, disons. Et en fait, je suis parti pour de la vie intellectuelle et religieuse. Donc, ben, si vous voulez, j'ai pu prendre même Dieu lui-même, ou alors intellectuel Dostoïevski avec Besançon, Vico, qu'on avait un peu oublié. J'ai même pris une dame, la Bibliothèque nationale, que je connaissais un peu. Et puis, la deuxième fonction, chère à Georges Dumézil, celle des nobles, des seigneurs, j'ai pris les héros fondateurs. Il y en a eu beaucoup, mais enfin, De Gaulle, Bismarck, Pierre le Grand, qui chacun à leur genre sont des fondateurs. Les souverains, les rois, là j'ai pris des Bourbons, bon. Le peuple, nous passons, si vous voulez, de la fonction religieuse et politique à la fonction nobiliaire et seigneuriale et à la fonction populaire. Et à vrai dire, ça a été assez court avec M. Amouroux, excellent du reste. Et puis, parmi ce qu'on pourrait appeler les roturiers, les hommes du peuple, mais d'un peuple pris au sens très large, et incluant la bourgeoisie, les classes moyennes. J'ai pris d'une part des gens de qualité, des démocrates, des républicains, et puis des horribles. J'ai fait un peu une galerie des horreurs.
Les monstres honnis.
Les monstres honnis, il y a les monstres sacrés, ça c'était plutôt les héros fondateurs. Et les monstres honnis, mon Dieu, c'est toujours sympathique en quelque sorte, parce qu'on n'a que l'embarras du choix. Et on a tout de même des personnages d'une certaine couleur. Alors ça va bien sûr jusqu'à des gens dont on voudrait presque nous interdire de dire qu'ils ont quelque chose d'humain, comme Hitler. Bon, c'était des hommes quand même. Et c'est précisément parce qu'ils étaient des hommes qu'ils pouvaient être horribles. C'est ça qu'on oublie. C'est pas parce que, justement, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et l'homme est parfois une sale bête. Ben justement, encore que cette définition est trop simple. Et enfin, ben j'ai rajouté quelques femmes, reine de France, Jeanne d'Arc et l'incontournable Madame Thatcher.
Alors, avant de venir à ces personnages, avec le recul, après un an, y a-t-il des personnages que vous auriez souhaité voir évoqués et qui ne sont pas là ?
Ben, mon ami Tullard m'a reproché de ne pas avoir mis Napoléon, mais comme je savais qu'il allait succéder, je lui ai laissé ce privilège. En outre, lui a su dire du nouveau de Napoléon. Moi, j'avoue que j'en étais un peu incapable, donc nous l'avons laissé tomber. Et puis, oui, bien sûr, il y a un tas de grands personnages, ou même de petits personnages. Un ami de la bibliothèque m'a proposé Pasteur, mais justement, je n'ai pas voulu prendre de savant, parce que c'est un genre un peu différent pour moi. Donc, si cette liste était à refaire, sans doute, elle ne serait peut-être pas très différente.
D'accord. Alors, dans votre avant-propos, Emmanuel Leroy-Ladurie, vous insistez bien sur le fait qu'il ne s'agissait pas de faire de simples récits chronologiques, et au fond de réfléchir sur le sens des existences, sur la psychologie de ces personnages. L'analyse psychologique en histoire est ce qui rend la biographie passionnante ?
Alors, effectivement, ce ne sont pas des biographies, sauf peut-être le cas de Mao Tse-Toun, qui a été décrit avec talent par une académicienne. Mais précisément, parce qu'on connaît en gros la vie de Staline, en revanche, on connaît mal celle de Mao Tse-Toun. Il fallait donc l'exposer. Ho Chi Minh, de même. Mais là, dans cet espace court, ou dans cet espace courbe, comme disent les théoriciens de la cosmologie, on n'allait pas refaire des biographies, nous n'étions pas le dictionnaire Larousse. Et par conséquent, on essayait de réfléchir sur ces bons hommes ou sur ces bonnes femmes et de voir ce qu'il y avait en eux ou en elles de saillant, d'original.
Alors, vous liez toutes ces communications du lundi à un colloque que vous avez organisé autour du thème « Le meilleur et le pire, personnage et caractère ». Donc on retrouve le titre. Et c'était un colloque placé sous le signe de l'ouverture. Vous utilisez le terme d'ouverture. Quel est le sens de ce mot « ouverture » pour
Alors,
vous ?
Ce colloque sera publié à part aux éditions Fayard. Mais enfin, effectivement, il faisait en fait partie de l'ensemble. Sauf que ce n'était pas un exposé à une séance du lundi, c'était un colloque qui a duré une journée. Alors, l'ouverture a été étudiée par Bergson, on l'oublie trop, dans Les deux sources de la morale et de la religion, et par Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis. Popper qui ne cite pas Bergson, ce que je trouve, alors qu'à mon avis, il le connaissait. Alors, Popper, c'est intéressant. Cela dit, il dit Platon est un fasciste. Alors là, j'avoue que je suis un peu dépassé, parce que je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Donc j'ai cherché, moi, une définition de l'ouverture en politique qui est différente de l'axe gauche-droite. Il y a un axe gauche-droite et un axe ouvert-fermé. Par exemple, Staline est de gauche, si on veut. Enfin, il n'est pas très ouvert, hein, il me semble. Et Hitler est de droite, il n'est pas très ouvert non plus. Et pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme test ? Alors, j'ai commencé avec Henri IV, qu'on aurait pu le présenter dans le volume des PUF, des presses universitaires. Et j'ai trouvé trois critères. Le premier, c'est l'ouverture au protestantisme. Car à partir du moment où il y a des protestants, la société est pluraliste et donc l'ouverture est nécessaire. Ouverture aux protestants, mais aussi aux élites, notamment aux officiers, aux cadres, disons, de la nation. En second lieu, ouverture extérieure à ce que j'appellerais les puissances protestantes, libérales, maritimes et capitalistes. Les Pays-Bas et l'Angleterre. Enfin, croissance économique. Et alors, je suis ça depuis Henri IV. Sous Louis XIV, qui était un grand roi, mais enfin, les signes sont inversés, c'est plus tellement ouvert. Puis, avec Philippe d'Orléans, la régence, à nouveau, on a un système assez ouvert dans les trois directions que je viens d'indiquer. Et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, donc si vous voulez, c'est très différent de l'axe gauche-droite. Par exemple, La Troisième République, c'est une institution qui est plutôt de gauche, mais qui n'est pas tellement ouverte. Il n'y a pas eu de ministre catholique de la Troisième République de 1887 à 1914. S'il a fallu en 1915, il y en a eu un secrétaire d'État. C'est pas très ouvert. En revanche, la Quatrième République est un régime très ouvert. Ouvert aux catholiques, ouvert à la croissance économique, ouvert à l'Amérique. Je retrouve ça, finalement, dans l'histoire du communisme, que je connais un peu, que Alain Besançon a bien étudié, des phases d'ouverture, la NEP de Lénine, le Khrouchtchev, par exemple, Gorbatchev, mais il ouvre tellement que le système s'écroule, et puis des phases de fermeture, le communisme de guerre de Lénine, le stalinisme dur des années 30 ou des années 50, etc.
C'est un thème qui vous est cher, Emmanuel Laurent Ladurie, cette notion d'ouverture.
Oui, parce que je crois que si on n'a que l'axe gauche-droite, qui est important, je n'en disconviens pas, il y a des choses qu'on n'arrive pas bien à voir. Robespierre est de gauche, c'est pourtant pas notre idéal. Louis XVIII est de droite, et pourtant Robespierre laisse une dictature derrière lui qui n'est pas très sympathique, et Louis XVIII réalise quand même la première épreuve d'un régime parlementaire en France, ce qui n'est pas rien.
Est-ce que l'historiographie aujourd'hui tend justement à s'ouvrir ?
Mon idée d'ouverture, ça ne les a pas intéressés jusqu'ici, peut-être ça va les intéresser quand le colloque sera publié. Pour le reste, oui, l'histoire est grande ouverte, c'est certain. Elle est ouverte à l'histoire économique. J'ai moi-même fait l'histoire du climat sans que les gens hurlent, au contraire même. Et puis l'histoire politique, les biographies, tout cela reste très, très, très en vogue.
Alors, je reviens à cette année académique. Vous avez recherché une typologie de caractère pour encadrer en quelque sorte ces grands hommes, ces monstres sacrés ou monstres nids, et vous avez retenu une typologie qui est assez méconnue, vous le disiez tout à l'heure, c'est la typologie de Giambattista Vico. Alors, oui. Qui fut d'abord Giambattista Vico et quelle est cette fameuse typologie ?
Alors, je commencerai par vous dire qu'il y a une typologie plus simple, mais trop simple, bien qu'intéressante, celle de Georges Dumézil, les prêtres, les guerriers, les paysans. Paysans, la bourgeoisie, etc. Alors, c'est bien, c'est utile, mais c'est un peu simple. Donc j'ai voulu la complexifier, la compliquer, et j'ai trouvé Vico, qui m'a toujours intéressé, qui est un professeur de l'université de Naples, assez obscur, du début du XVIIIe siècle, et dont l'œuvre La Scienza Nuova, la science nouvelle, a traversé les siècles, étudiée par M. Alain Pons, un chercheur français. Pour Vico, l'histoire se déroule comme suit, et je n'ai pas suivi tout à fait son déroulement. Au départ, il y a les monstres, les monstres sacrés, plutôt les monstres nids, les monstres. Et alors, pour nous purger la terre des monstres, il y a ensuite les dieux. Après les dieux viennent justement les héros. Et enfin, après les héros, le peuple. Ça, vous remarquerez que c'est de la classification de Dumézil, les dieux, les héros, le peuple. Vico rattache ça à une courte citation d'Hérodote que j'ai vérifiée et qui n'existe pas. Ça l'arrangeait de dire, mais peu importe. Alors, après le peuple, bizarrement, il met les monarchies. Il met les républiques, c'est ça. Les républiques urbaines, évidemment, il pensait en Italie, à Florence, ou à Venise. Et ce qui, pour lui, est la forme parfaite, les monarchies. Et enfin, un peu les femmes qui traversent tout ça, parce qu'elles ont la fonction reproductrice pour lui. Pas que ça, bien sûr. Et puis ensuite, on retombe à la barbarie et tout pour commencer. Une nouvelle fois, sur des grands cycles. Alors, incidemment, vous notez que son idée de mettre la monarchie après la République, bon, elle est fausse en ce qui nous concerne, notre République a été postérieure à la monarchie, mais dans l'histoire du monde, l'idée d'un empire universel qui essaie de mettre fin à l'anarchie, c'est un peu l'empire américain, donc il y a, je ne dis pas que je suis pour, c'est un autre problème, mais il y a quelque chose qui subsiste là. Alors j'ai gardé cette typologie, mais on l'a modifiée un peu, parce que commencer par les monstres, par Hitler et Staline, c'était quand même un peu raide.
Alors j'ai lu l'intervention de M. Alain Pons, qui est très intéressant dans la science nouvelle de Vico, c'est qu'il mêle autant la philologie et la philosophie.
Oui, Vico...
C'est ce qui fait la pertinence de son analyse ?
Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un homme qui a une culture antique très importante. Mais surtout, ce qui fait la pertinence, je crois, c'est l'originalité de son propos. C'est le fait qu'il a quand même au centre de son système les trois fonctions de Dumézil. Il ne connaissait pas Dumézil, qui est venu beaucoup plus tard. Fonction dite indo-européenne. Et c'est le fait que son modèle peut servir deux fois. Une première fois avec, si vous voulez, la mythologie grecque, puis les héros de l'Iliade et de l'Odyssée, les républiques comme Athènes, et finalement l'Empire romain. Et puis à nouveau, on recommence le système avec le christianisme, la chanson de Roland pour les héros, Beowulf en Angleterre, la civilisation des villes du Moyen-Âge, et puis les monarchies. Alors, ce que Vico n'avait pas prévu, c'est que des républiques succéderaient ensuite aux monarchies. Mais enfin, peu importe. Et c'est une analyse culturelle, oui, qui est très, très intelligente.
Je reçois Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a dirigé le travail consacré aux personnages et aux caractères du 15e au 20e siècle, qui en fait reprend l'année académique 2003 que vous avez dirigé, Emmanuel Leroy-Ladurie. Nous vous retrouvons dans un instant.
Canal Académie. Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Emmanuel Leroy-Ladurie qui nous présente son livre Personnages et caractères, livre qu'il a dirigé. Et c'est un livre qui reprend une année académique, une année de communication à l'Académie, donc consacrée aux grands hommes, aux monstres sacrés ou bien aux monstres oni. Alors nous évoquions la typologie de Vico sur laquelle vous êtes calqué. En tous les cas, vous avez calqué tous ces personnages. Vico est un personnage assez fascinant parce qu'il comprend que la philosophie des Lumières peut autant produire le pire comme elle peut produire le meilleur. Et c'est une pensée que vous avez reprise. On peut dire que votre livre est un livre sans concession ?
Tout à fait. Si vous voulez, il y a encore en 1982, par là, avec la gauche au pouvoir et les communistes, il avait été question de mettre l'anticommunisme hors la loi, comme l'antisémitisme. Et puis, le communisme s'est effondré, Dieu merci, on peut dire, on est libre. Et par conséquent, c'est un livre sans concession, c'est-à-dire qu'on y dit du mal de Hitler, bon, ça mange pas de pain, ça va de soi. On y dit pas tellement de bien de Franco et Mussolini, encore qu'il peut y avoir des nuances, mais enfin, on pourrait en reparler. Mais alors, sur Lénine, Staline, bon, Mao Tse-Toun, Ho Chi Minh, c'est un tout petit peu différent, puisque ce sont malgré tout des chefs nationalistes, alors... Il reste quelque chose de leur héritage. Et surtout, mais Lénine, Staline, Trotsky, il n'y a vraiment aucune concession. On dit que ce sont d'horribles bons hommes. Et c'est un peu nouveau, ça, parce qu'avant, on prenait sur des gants. Je me souviens même de mon maître Bourdel, pour qui j'avais le plus grand respect, la plus grande admiration, et qui a beaucoup fait pour moi. Mais enfin, il a fait un livre qui s'appelle « Grammaire des civilisations ». Pas mal du tout, c'est un peu à l'origine de la pensée de Huntington sur les civilisations. Mais alors, le chapitre sur l'URSS, il prend des gants. Hein. Il y va très, très gentiment. Aujourd'hui, on ne se gêne plus.
J'ai reçu Stéphane Courtois à ce micro. Vous pensez que nous sommes dans un tournant historiographique ?
Ah, de ce point de vue. Mais il y a d'autres vaches sacrées. Hein. Alors, je sais pas, comme elles sont sacrées, je ne les nommerai pas. Il y a d'autres vaches sacrées. Mais ces vaches sacrées-là, elles sont parties à l'abattoir. Enfin, c'est les abattoirs de Chicago, cher Georges Duhamel.
Alors, votre livre compte 24 portraits au total. Il y a également 6 interventions plus thématiques. Il y a une intervention sur la propagande. Il y a un texte sur les sources autobiographiques et bien d'autres textes encore. Alors, nous ne pouvons bien évidemment pas parler de tous ces personnages. Permettez-moi, Emmanuel Leroy-Ladurie, de commencer par le pire et de servir, si vous le voulez bien, le bon vin en fin d'émission comme aux noces de Cana. Commençons donc par ceux que vous appelez les autoritaires et les totalitaires. Proportionnellement, ils semblent avoir une place plus importante que les autres dans l'histoire. C'est un fait notable, ils ont tous vécu au XXe siècle.
Oui, parce que je crois que ce sont des gens horribles, mais quand même, c'est assez passionnant. On se demande comment le XXe siècle a pu produire des types pareils. Cela dit, il y en a eu auparavant également. Mais je pense que Nous avons eu Napoléon, par exemple. Bon, ben, il a quand même fait tuer 1 million de personnes. Il s'est lancé dans des guerres idiotes dont Louis XIV s'est bien gardé. Mais enfin, son image émerge. Plutôt comme un héros fondateur ou créateur que comme un héros destructeur. En revanche, ces bons hommes, la tour est assez vite faite, Hitler, Staline, même Mussolini et Franco, n'ont pratiquement rien de positif. Même si on doit reconnaître que Mussolini et Franco, c'est plus délicat, il faudra...
Nous allons y revenir.
Mais Hitler et Staline, absolument pas. Et puis Lénine est entraîné maintenant dans le tourbillon. On commence à voir que c'était vraiment... le fondateur d'un régime policier, un type extrêmement cruel. Enfin, évidemment, Staline a battu tous les records.
Alors, venons-en justement à ces personnages. Commençons, si vous le voulez bien, Emmanuel Leroy-Ladurie, par Mussolini. C'est un personnage qui apparaît comme très renouvelé sur le plan historiographique, oui. Grâce notamment à l'excellent travail de Pierre Milza, que, d'ailleurs, un jour dans l'histoire, a reçu à propos de Napoléon III. Que dire de Mussolini ?
Eh bien, d'abord, Mussolini a été l'objet de l'œuvre du plus grand historien italien, De Felice. Renzo De Felice, en 10 volumes, si bien que ça ne sera jamais traduit, ce qui est dommage. Mais que, allez dans n'importe quel bistrot italien, vous pouvez acheter De Felice, parce que c'est une œuvre immensément populaire là-bas. Et Milza a une pensée originale, mais enfin, évidemment, c'est un disciple de De Felice. Et je crois que De Felice a montré que même s'il y a du totalitarisme, Mussolini, jusque vers 1935, arrive à obtenir ce qu'il appelle le consenso, un consensus, et puis il devient progressivement, par quand même, je pense qu'il aurait pu éviter ce sort, Franco était quand même plus malin, il devient le clone de Hitler. Mais il y a un passage très très intéressant chez Milza, c'est celui que je résume de mémoire, je ne vais pas vous le lire, où vers la fin de la guerre mondiale, Hitler rencontre Mussolini et dit « Mon cher Duce, il faudrait que vous reveniez au pouvoir. » Alors Duce dit « Mon cher Führer, je suis fatigué. » Non, non, alors si vous ne revenez pas, je détruis, et vous allez voir le goût, si je vous dis exquis du Führer, je détruis, non pas du tout Rome, Venise et Florence, mais je détruis Gênes, Milan et Turin. Et puis je mets le peuple italien en esclavage comme les Polonais. Et alors, à ce moment-là, le Duce dit, dans ces conditions, mon cher Führer, je reprends le pouvoir. Et vous noterez que c'est le raisonnement pétiniste par excellence. Alors, là, je m'abstiens évidemment de juger. Mais Milza, historien de gauche, quand il vient à un pays qui lui est cher, l'Italie, puisqu'il est d'origine italienne, fait certaines concessions que peut-être il ne ferait pas pour la France. Alors je me borne évidemment à dire ça, et ça n'enlève rien, bien au contraire, à l'immense estime que je porte à ce grand historien et excellent ami.
Alors, autre personnage sur lequel il y a, vous le disiez tout à l'heure, des nuances à apporter, c'est Franco, qui se rapporte, que l'on assimilera davantage à l'autoritarisme qu'au totalitarisme.
Oui parce que ce n'est pas vraiment un totalitarisme. Il y a même une espèce de pluralisme entre l'Église. Alors, Franco, il faut rappeler d'abord qu'il intervient contre ce qui est en train de se produire, qui est une révolution de type soviétique. Alors, après tout... c'était pas non plus très souhaitable, massacre de curés, de bonnes sœurs. Alors lui-même a la tuerie assez facile. Et ça, c'est pas son meilleur côté, loin de là. Et donc, d'autre part, il est allié avec Hitler, tout en évitant de se lancer avec lui dans la guerre. Cela dit, si vraiment Hitler avait tout à fait gagné, bon, Franco serait peut-être arrivé la queue entre les jambes derrière lui. Alors, le très grand reproche qu'on peut faire à Franco, bon, après tout, c'est un monsieur qui fait une guerre, il la gagne, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est qu'il a continué à beaucoup fusiller. Alors, Ciano, le gendre de Mussolini, qui a été fusillé par son beau-père, vous savez, en Italie, il y a un livre du petit-fils de Mussolini qui dit « Comment bon papa a fait fusiller papa ?» Bon. Franco, Ciano dit que Franco a fait fusiller 200 000 personnes. Bon, je crois qu'il exagère, c'est pas 200 000. Après, quand la guerre était terminée. Ça, c'est pas vraiment la magnanimité du vainqueur. Mais alors, il y a un fait, et ça, Ben Nassar, ce très grand historien de l'Espagne qui est Ben Nassar, le dit bien, c'est que du franquisme sort à travers un certain libéralisme économique qui commence vers 1956, la croissance de l'Espagne actuelle récupérée par Juan Carlos. Et ça, c'est un fait, et c'est ce que Ben Nassar appelle une ordalie, c'est-à-dire une génération est sacrifiée. Et, mais après tout, est-ce que la révolution industrielle, ajoute Ben Nassar, n'a pas elle aussi sacrifié une génération en Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Tout ça n'est pas très glorieux, mais enfin, Franco n'est donc pas le pur et simple monstre de négativité que finalement est Hitler et même probablement Staline, car je vais en Russie de temps en temps, j'oublie toujours de poser la vraie question, pensez-vous que la Russie a perdu son temps pendant 70 ans ou qu'il en reste quelque chose? Je demanderai un jour.
Alors, justement, je me permets de citer Bartholomé Ben Nassar qui, ne fait pas de concession. Il dit, il a préparé, donc Franco a préparé, consciemment ou non, le développement de classe moyenne qui avait si longtemps manqué à ce pays et suscité ensuite, par réaction, une créativité qui a fait merveille ensuite. C'est effectivement complètement nouveau dans l'historiographie.
Tout à fait. Enfin, c'est pas nouveau si on s'en tient à l'historiographie qui peint en rouge et en blanc. Et je dois vous dire que j'étais très attristé lors de la panthéonisation de Malraux, qu'un très grand personnage de l'État nous serve un discours où c'était simplement le rouge et le blanc. Mmh. Il y avait les bons, c'était les républicains, il y avait les méchants, c'était les franquistes. Non, c'est pas ça. Ben Nassar, c'est la nuance. La nuance qui seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. J'étais vraiment un peu désolé de ça. Bon, je sais bien que ce discours était l'œuvre d'un agrégé qui savait plus ou moins écrire, mais enfin, quand même.
Alors, autre personnage et facile à identifier, c'est Hitler. Oui. Vous en faites un révolutionnaire, mais d'un type particulier, puisque vous distinguez, Emmanuel Leroy-Ladurie, trois types de révolution.
Ben, je pense que, si vous voulez, le passage de l'ancien régime à la démocratie est quelque chose de très douloureux. Même en Angleterre, la révolution anglaise, bon, ça s'est assez bien passé, c'était un petit pays, il y avait 5 millions d'habitants au XVIIe siècle, mais enfin, ils ont décapité un roi, il y a eu une guerre. Alors, sinon, les grandes révolutions, elles ont leur légitimité, sans aucun doute, la révolution française, mais enfin, c'est très très cruel quand même. C'est parce qu'il n'y a plus de légitimité. On avait une légitimité monarchiste, on a maintenant une légitimité démocratique. Entre les deux, il n'y a pas de légitimité, donc c'est le règne de la peur. Et c'est Ferrero qui a dit ça, un Italien. Et donc, je pense que la France a fait cette transition fin 18e, début 19e siècle, mais les autres grands pays européens, Italie, Espagne, même le Japon qui n'est pas européen, la Russie, on fait cette transition au XXe siècle. Et ça a été épouvantable. Plus ou moins. Bon, on a parlé de l'Espagne. Bon, l'Italie, ça n'a pas été le pire, mais ça n'a pas été toujours très drôle. L'Allemagne, ils ont tout cassé, y compris leur ancien régime. En ce sens, c'est une période révolutionnaire, mais extrêmement négative. Et autant il y a une positivité de la République de Weimar, mais qui malheureusement s'est cassée la figure, autant le grand casseur, Hitler, est un type complètement abominable et à rejeter. Alors, j'ai quand même regretté là-dedans que dans le très bel exposé de M. Burin, j'aurais dû lui dire, il dit que le meurtre des handicapés n'a pas soulevé de protestation. Si, il y a eu celle du comte et évêque von Galen, évêque catholique, qui a protesté contre le meurtre des handicapés. Il y en a à peu près 100 000 qui ont été tués, et à la suite de quoi Hitler a arrêté. Donc, vous voyez, là, il y a une minuscule erreur dans ce livre. Ça doit être vers la fin de... Mais enfin, l'exposé de M. Burin est excellent, c'est un grand spécialiste.
Quand nous préparions l'émission, vous évoquiez le fameux film La Chute, qui est un film d'actualité. C'est un film qui vous a marqué?
Oh, c'est un très grand film. Il faut toute la bêtise française pour ne pas s'en rendre compte. C'est un très grand film avec un grand acteur. Et contrairement à ce qu'on prétend, ça ne nous rend nullement Hitler sympathique. Bien au contraire, c'est un homme. Et je répète que l'homme peut être une sale bête, y compris Hitler.
Il y a un mot dans votre conclusion que j'ai beaucoup apprécié, c'est sur Hitler et sur toute cette période de l'Allemagne du début du siècle. Vous écrivez « Le Reich est trop gros pour ne pas jouer un rôle essentiel et central en Europe, trop petit pour être en mesure d'affronter victorieusement les superpuissances telles qu'Amérique et URSS ». C'est tout un paradoxe.
Mais je crois que c'est, effectivement, c'était leur tour en Europe. Et ça aurait pu se passer moins mal, quand même. Il y a eu le tour de l'Espagne au XVIe siècle, un peu de l'Italie de la Renaissance, il y a le tour de la France avec Louis XIV, il y a le tour de l'Angleterre, qui, bon, ça aurait pu être pire quand même, au XIXe siècle, et c'était le tour de l'Allemagne. Mais, malheureusement, ça s'est produit avec un personnage absurde, quand même, odieux et absurde. Et... quand vous pensez que Hitler, qui certes avait des aspects de très grande intelligence, on peut même dire des aspects de génie politique, attaque l'URSS en disant « c'est un château de sable ». En 3 semaines, c'est terminé. Et au bout de 3 semaines, ou plutôt d'un mois, il voit bien que c'est pas terminé, et il dit « ah, j'ai quand même bien fait les attaquer. Heureusement, je croyais que c'était un château de sable. Si j'avais su ce que c'était, je ne les aurais pas attaqués et j'aurais manqué à ma mission ». Vous voyez, le sophisme incroyable. Et deuxièmement, c'est lui qui fait cette chose incroyable de déclarer la guerre aux États-Unis. Ça, tout le monde l'oublie. C'est pas les États-Unis qui ont déclaré la guerre à Hitler, c'est Hitler. Une folie absolument complète qui a permis justement à Roosevelt de rejoindre Churchill et de diriger la guerre contre l'Allemagne. Donc c'est à la fois un homme, sans aucun doute, un génie du mal. Et c'est comme ça que vous voyez la résistance allemande, la résistance du 20 juillet 44. Mais enfin, tout de même, dans génie du mal, il y a tout de même quelques côtés de génie. Mais en même temps, un demi-fou. Et effectivement, l'Allemagne était trop grande pour ne pas jouer un rôle essentiel et trop petite pour les prétentions mondiales qu'elle a eues.
En face, il y a Staline, le frère ennemi, un personnage, si vous voulez bien, Emmanuel Leroy Ladurie, que nous allons étudier après une seconde pause. A tout de suite.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
On retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Emmanuel Leroy Ladurie, qui a présidé l'Académie des sciences morales et politiques pendant un an, en 2003, et qui a invité plusieurs spécialistes, plusieurs universitaires, pour présenter des biographies de personnages et caractères du 15e au 20e siècle. Toutes ces interventions ont été publiées aux presses universitaires de France, et nous évoquons, dans un voyage à travers l'histoire, tous ces personnages. Alors nous évoquions les Monstroni, Hitler, Franco, ainsi que Mussolini. Passons au frère ennemi, Staline. Stéphane Courtois le qualifie de la façon suivante. Il dit « ni rêveur, ni exalté, mais fanatique réaliste ». Qu'en pensez-vous ?
Alors, je crois que la différence entre Hitler et Staline, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, je connais un peu, j'ai beaucoup lu ce sujet, c'est que Hitler limite son action à la durée de sa vie. Donc, il faut faire très vite. Tandis que Staline est Hitler est un joueur de poker. Et Staline joue aux échecs. Il est toujours prêt à renverser la table. Il y a un revolver sous la table. Après, il joue aux échecs. Et il a l'impression de faire partie d'un système. Et donc, ce système peut continuer à se développer après sa mort. C'est le système communiste international. Tandis que Hitler, non seulement, et c'est là qu'on voit les limites de la biographie, du reste, Hitler non seulement pense qu'après sa mort, c'est trop tard, mais même que dès qu'il aura 60, 70 ans, il sera trop vieux. Il faut qu'il fasse les choses quand il a entre 40 et 60 ans. C'est ce que Raymond Aron appelait l'aventure d'un homme seul. Tandis que là, c'est un homme qui se croit dans un système. Or, l'histoire a démontré que ce système était en fait lié à cet homme. C'est ça le paradoxe. Et que ce système a peu à peu battu de l'aile et a fini par disparaître, puisqu'on n'a jamais vraiment réussi à le faire marcher, si cruellement que ce soit, comme du temps de Staline.
Alors, le stalinisme est détestable, hein, c'est une évidence, on enfonce une porte ouverte. Et de son côté, Nicolas Wert, lui, s'est employé à montrer que son prédécesseur, Lénine, était tout aussi détestable. Il n'y a pas, dites-vous, je reprends votre expression, il n'y a pas, dites-vous, d'antidote léniniste utile.
Alors, c'est là le problème. Il y a toujours la momie de Lénine, ce qui est absolument grotesque, sur la place Rouge, où notre président Giscard était allé mettre une gerbe. Je ne sais pas, il devait penser à autre chose ce jour-là. Il y a pas mal de statues, de monuments à Lénine qui restent. Il est vrai que vous me direz qu'il y a encore, dans je ne sais quelle ville de là, une statue de la reine Victoria. Mais la tendance d'une bonne partie de la gauche française, même encore aujourd'hui, c'est de sauver, de dire, bon, Staline, on vous l'abandonne, mais Lénine, c'est quand même autre chose. Or, c'est autre chose en ce sens que Lénine a beaucoup moins tué que Staline. Il a tué pas mal, mais ça n'est pas l'immensité du massacre, comme dans le cas de Staline. Mais il n'y a aucun doute qu'il a mis en place des règles de meurtre. C'est un homme de sang. Voilà. Comme Robespierre, c'est un homme de sang aussi.
Ho Chi Minh, lui, a été présenté par Madame Dulon-Saint-Denis, qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques et qui a été longtemps dans ces pays orientaux.
Oui, son défunt mari, hélas, était un délégué de la France là-bas. Donc, elle a bien connu, puis elle a travaillé ce sujet sur lequel mon ancien collègue, M. Brocheux, avait également écrit un livre. Puis il y a même Boudarel qui avait travaillé sur l'histoire du Vietnam, mais après on s'est aperçu qu'il y avait quelques problèmes. Alors je crois que le cas de Ho Chi Minh et de Mao Zedong est un peu différent, parce que Staline et Hitler ne s'identifient pas au nationalisme allemand. La nation allemande est bien formée avant eux, et la nation russe aussi. Tandis que effectivement, le côté négatif de Ho Chi Minh, c'est qu'il a utilisé la méthode communiste, il a beaucoup tué. On m'a raconté, est-ce vrai, qu'on faisait passer des faucheuses sur les têtes des Vietnamiens nationalistes et non communistes vers 1945-46. Mais il s'est identifié à la nation vietnamienne qui existait avant lui, mais enfin qui était un peu dans les limbes, et il a fait une nation qui, maintenant, existe. C'est un pays important. On pourra peut-être en dire autant de Mao Tse-tung d'une façon différente. On ne peut pas caractériser de façon aussi négative Ho Chi Minh, même s'il est ridicule, évidemment, que Saigon s'appelle Ho Chi Minh, mais enfin, il n'y peut rien.
Vous en faites un personnage plus complexe que Staline, au fond.
Moi, je crois que Staline est complexe. Mais Ho Chi Minh, d'abord, est moins puissant. Il est certain que, il aimait les fleurs, il écrivait des petits poèmes. Enfin, c'est un homme qui connaît des langues étrangères, qui en a appris un certain nombre, le français, l'anglais, alors que Staline ne connaissait que le géorgien et le russe. C'est un homme qui, apparemment, est quand même, vers la fin de sa vie, le bureau politique est plus puissant que lui, puisqu'il est question de le marier, la fille ne veut pas. La décision ne dépend plus tellement de lui. Je dirais qu'il est à mi-chemin, celui de l'archipel du Goulag, parce qu'il a envoyé pas mal de gens au Goulag, et des petits vieillards modèles de la comtesse de Ségur, un peu de son côté charmant. Il faut pas trop être dupe.
Alors, les régimes totalitaires sont indissociables du travail de propagande. Et cette question de la propagande, vous avez demandé à Marc Ferraud de l'aborder à travers l'étude de trois personnages. Goebbels, jusque-là rien d'anormal. Staline, toujours rien d'anormal. Mais le dernier, c'est Roosevelt.
Oui, enfin je me suis méfié, j'ai mis Staline et Goebbels face à Roosevelt, qu'on ne m'accuse pas de les mettre sur
le même pied d'égalité.
Sur le même plan. Alors, Goebbels, je voudrais faire ici une mise au point, parce que c'est une immonde crapule, c'est un salopard absolument considérable, mais c'est tout de même un homme très intelligent et qui a laissé un journal de 15 000 pages qui a été la matière première d'un livre du reste qui n'est pas génial, qui est le livre de Kershaw sur Hitler, dont tout le monde nous fait un plat. Je ne trouve pas que ça apporte tellement plus que Joachim Fest. Mais enfin, il a des éléments nouveaux grâce au journal de Goebbels. Et J'ai lu ce journal et je l'ai lu avec des pincettes, bien entendu, on doit faire attention. Et j'en ai retiré l'idée que c'est un horrible type, mais quand même, c'est un texte très intelligent. C'est un type qui, tous les jours de la Deuxième Guerre mondiale, dictait 4 pages. Et non pas du tout sur ce qui se passait, sur les gargouillements de son estomac, non, sur la situation du monde. Et dans un allemand assez facile. Ça devrait au moins être entièrement traduit en anglais, à défaut de l'être en français, alors qu'on traduit la moindre propos de table de Freud ou de Marx qui n'a aucun intérêt. Là, quand même, c'est un texte tout. J'allais dire, c'est presque un texte fondateur. Et les Allemands font un. C'est pas du tout un éditeur nazi, c'est une édition scientifique. Et je trouve que autant Mein Kampf, c'est assommant. Moi, j'ai essayé de lire à plusieurs reprises Mein Kampf, ça me tombe des mains au bout de 10 pages. C'est quand même un livre important, puisqu'il annonce tout ce qu'il va faire.
Mais enfin. Peu l'avait lu quand il est sorti, en France.
Qui l'avait lu ?
Peu de personnes l'avaient lu quand il est sorti.
Et le maréchal Lyautey disait tous les Français devraient lire ce livre. Mmh, mmh. Parce qu'il annonçait tout ce qu'il voulait faire, ça y montrait la couleur. Autant là, quand même, c'est un ouvrage passionnant, et dès qu'on sait un minimum d'allemand, on y arrive. Alors, par ailleurs, c'est effectivement Goebbels, c'est un personnage très moderne, inventeur de la propagande. Et récemment, bon, l'Amérique de Bush, ça n'existe pas. Il y a Bush et puis il y a l'Amérique. Mais enfin, Stern, qui est un vieux professeur américain d'origine allemande, disait que le célèbre morceau de film où l'on voit Bush annonçant que la guerre est finie, alors que la côte californienne est à 50 mètres, mais qu'on a montré que l'immensité du Pacifique, ça lui rappelait l'immense talent de Leni Riefenstahl en 1936. Alors ça ne fait pas du tout du bushisme, une forme de nazisme. Enfin, il y a des côtés de propagande. Et il est certain que la chaîne Fox, même un peu CNN, paraît-il maintenant, la chaîne Fox a des méthodes de propagande qui sont plus tout à fait du Roosevelt.
Alors quittons, si vous voulez bien, ces territoires autoritaires et totalitaires.
En nous bouchant le nez, bien entendu.
Exactement. Les démocrates et les républicains. Vous avez retenu 3 démocrates et républicains, Schuman, Churchill et Gorbatchev. Arrêtons-nous, Emmanuel Leroy-Ladurie, si vous le voulez bien, sur ces 2 derniers, Churchill et Gorbatchev. Alors pourquoi Gorbatchev ? Vous dites, au fond, Gorbatchev, c'est un démocrate sur le tard.
C'est évident, oui. C'est un humaniste, c'est un type même, on peut dire, assez merveilleux. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on est sorti du nazisme ? En écrasant les villes allemandes, c'est épouvantable, il fallait peut-être le faire, j'en sais rien. Entre parenthèses, les Allemands font des réflexions sur les bombardements que nous ne faisons pas, nous. Alors que nous étions innocents et que les Allemands étaient coupables. Enfin, ils se plaignent des bombardements, il faudrait peut-être bien le voir. Mais Gorbatchev a détruit le système, c'était probablement plus facile à détruire que le nazisme, par en haut, puisqu'on avait pensé à toutes les solutions pour détruire le système, sauf que ce système explose de l'intérieur du bureau politique, et c'est ce qui s'est passé. Alors je crois en effet que c'est un excellent homme, très intelligent. Il n'a pas pu faire, il n'a pas été capable de sortir de ce système assez lamentable, au fond, une économie moderne. Et ne parlons pas de la démographie, puisque la Russie perd 1 million d'habitants par an. Enfin, l'Espagne a aussi des problèmes de ce point de vue. Mais enfin, il a créé une ouverture, justement. Et on peut se demander, du reste, si avec Poutine, même Yeltsin, c'était le caliban du système, mais c'était quand même une ouverture aussi, si avec Poutine, il n'y a pas à nouveau une petite fermeture.
Il y a une des interventions les plus intéressantes, en tous les cas, elle m'a beaucoup marqué, et celle consacrée à Churchill. L'auteur en est Anthony Rollet, qui est historien, professeur à sciences politiques, et qui travaille également aux éditions Perrin, premier éditeur d'histoire en France. Et il tente de répondre à la question suivante. Au fond, Churchill était-il un opportuniste et un versatile ? C'est une question qui revient systématiquement quand on étudie Churchill, parce que nous devons de faire un portrait très contrasté de Churchill, vous le rappelez très bien. Oui.
Alors Churchill a tout raté, jusqu'au moment où il a à peu près tout réussi. C'est quand même lui qui a eu l'idée idiote de l'expédition des Dardanelles, qui est à peu près aussi sot que la révocation de Louis XIV, qui a fait beaucoup plus de morts. On disait, c'est la tourelle d'un tank qui tire dans tous les sens, y compris sur soi-même. Et Et puis, son intuition a trouvé son objet, et à partir de, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ou un peu plus tard, mettons vers 1935-36, il a compris où il fallait aller, et il a mené admirablement la barque de l'Angleterre. Mais il a mis un certain temps à trouver son propre équilibre.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a dirigé le travail « Personnages et caractères » publié au PUF, qui reprend une année académique, une année d'intervention académique, donc consacrée aux personnages et caractères du 15e au 20e siècle. Alors, nous avons évoqué les républicains et les démocrates. Il y a aussi les héros, ou bien les fondateurs, au choix. Et dans ces héros et fondateurs, vous classez De Gaulle, le général De Gaulle, Bismarck et Pierre le Grand. Alors commençons, charité bien ordonnée commence par soi-même, commençons par la France avec Charles De Gaulle. C'est Pierre Messmer qui a évoqué des souvenirs personnels. Et vous, dans votre conclusion, vous n'hésitez pas, encore une fois, sans concession, à pointer du doigt quelques défauts de la présidence du général De Gaulle.
Alors, De Gaulle est un héros fondateur, au sens où Jacques Le Goff, par exemple, parle des mythes fondateurs de telle église, de telle... C'est un héros fondateur, puisque d'une part, il est fondateur d'une légitimité. Au 18 juin 40, bon, Agulon dit que c'est, je ne sais plus, le 17 ou le 16, mais enfin, peu importe, à cause de la légitimité de la République encore, et qui s'est imposé vis-à-vis de Vichy, alors qu'après tout, bien des gens peuvent penser qu'il y a eu, en fait, il y a deux légitimités qui s'opposent, il y en a une qui triomphe de l'autre, à juste titre sans doute, enfin, sa question est complexe. Et puis, sa deuxième légitimité, c'est en 1958, la fondation d'un système semi-monarchique qui finalement marche quand même mieux ou moins mal que la 4ème République, qui pourtant avait un régime qui avait des quantités de mérite, j'en suis conscient. Alors, au fond, Messmer l'a peint comme en Normandie, on dirait une peau de vache, si vous voulez, De Gaulle. Aucun sentiment de reconnaissance, les types se font tuer, c'est tout à fait normal. Bon, et ça, c'est un peu ce côté grand homme. Moi, un jour, J'ai reçu à l'Académie des sciences morales le chancelier Kohl. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et il est parti sans me dire merci ni au revoir. Alors, je me suis rué sur sa paluche, je l'ai remercié. Bon, ben, c'est là que j'ai vu que c'était un grand homme, si vous voulez, puisque, effectivement, il doit être un reconnaissant de quiconque. Et De Gaulle, donc, a ce côté qui n'est pas forcément le plus sympathique, mais qui font de lui une sorte de héros solitaire. Alors, par ailleurs, il y a des critiques à faire, et pourquoi ne pas les faire? Je pense qu'il a laissé fusiller à la Libération pas loin de 1000 personnes. Il a dit que toutes ces décisions étaient justifiées. Ça peut se discuter. Mais enfin, mettons qu'il y avait à ce moment-là une forte pression communiste et qui faisait qu'il était pris dans un système. En revanche, je n'ai toujours pas compris pourquoi il a fait fusiller Bastien Thierry, qui était un excité, effectivement, qui lui a tiré dessus au petit Clamart. Et il n'y avait aucune pression communiste, il pouvait parfaitement le laisser moisir quelques années en prison. Je crois qu'il se prenait pour Richelieu, ou pour Louis XI, qui étaient des gens qui ont assez peu tué, mais enfin qui tuaient assez facilement. Enfin, heureusement, il ne se prenait pas pour Robespierre, encore que la première phase, les 1000 exécutions, ou près de 1000 exécutions, c'était déjà assez dur. Mais là, je répète, il était pris dans un système. Je ne lui en fais pas le reproche.
Vous parlez de Robespierre, on ouvre une parenthèse, Robespierre aurait pu faire partie de ces personnages à utiliser.
36 000 autres, mais je ne l'aurais pas mis dans les gens sympathiques.
Alors, autre...
Pour ça, je ne l'ai pas mis, peut-être que je ne l'aurais mieux pas.
Autre héros solitaire, c'est Bismarck, pour l'Allemagne.
Un très grand homme, encore que vraiment pas un ami de la France, et qui a probablement par la bêtise de Napoléon III, Napoléon III avait une excellente politique intérieure et une politique extérieure par moments assez nulle. L'expédition du Mexique est une folie. Et, Et alors tout de même, l'engagement de la guerre contre la Prusse, parce que le roi de Prusse a fait dire dans la dépêche d'Ems que sa majesté a fait dire, sa majesté prussienne a fait dire à l'ambassadeur de France par l'aide de camp de service qu'elle n'avait rien à lui dire, faire tuer 500 000 personnes pour ça, alors qu'aujourd'hui c'est le coup de pied dans le derrière qu'on reçoit, on remercie en général maintenant. La faute de Napoléon III. Alors, Bismarck, c'est à la fois un fauteur de guerre, indiscutablement, il a fait trois guerres, celle du Danemark, celle d'Autriche et contre la France. Mais une fois ce qui est assez remarquable, c'est qu'il a su s'arrêter. Une fois qu'il est arrivé à son but, qui était l'unité allemande, il s'est arrêté. Il a fait une politique multilatérale. Il a toujours dit qu'il fallait éviter la guerre sur deux fronts. S'allier à la Russie. Chose que Guillaume Day a oublié ensuite. Cela dit, un jour, j'ai rencontré eu l'honneur pendant deux minutes, c'était déjà énorme, j'ai rencontré le grand écrivain allemand Günter Grass, et je lui ai dit l'annexion de l'Alsace et l'erreur tragique de Bismarck. Il m'a dit non, c'est l'erreur tragique de Louis XIV. Nous sommes quittés là-dessus. C'était drôle.
Alors, passons de ces héros fondateurs aux religieux, et nous allons terminer sur ce thème. Vous parliez de Dieu tout à l'heure. Il y a le représentant de Dieu, c'est Jean-Paul II, et c'est André Damien qui en a parlé. Il a une double face pour vous, c'est le tombeur du soviétisme, mais il a un côté que vous qualifiez de droitier, qui est un homme qui préserve la hiérarchie.
Oui, alors il a évidemment des mérites religieux spécifiques, bien sûr. Il a d'immenses mérites puisque c'est l'un des tombeurs du communisme avec Gorbatchev, avec Reagan quand même, qui me paraît un type beaucoup plus intéressant que Bush.
Donc c'était le tombeur du soviétisme. Il était à la fois tombeur du soviétisme et un homme qui veut, parce qu'il est toujours, il est toujours là. C'est un homme qui veut préserver la hiérarchie.
Oui, alors le grand reproche que je ferai à Jean-Paul II, enfin si vous voulez, dans l'Église catholique, moi je ne fais pas de leçon à personne. Enfin, si on me demandait mon avis, je serais à la fois de droite et de gauche. Je serais de droite puisque je serais pour le latin. Enfin, c'est fichu, bon, c'est derrière nous. Enfin, je crois que c'est une erreur d'avoir abandonné cette liturgie pour des choses en français, souvent médiocres. Bon, mais ça, laissons ça. En revanche, là où je serais, j'ose pas dire de gauche, mais vers une espèce d'ouverture, c'est quand même, nous assistons quand même à un vieillissement catastrophique du clergé français qui ne doit se recruter que par de jeunes et faibles mâles. Or, il me paraît évident que, ça c'est d'un point de vue personnel, que l'Église catholique, comme les orthodoxes, comme les protestants, comme les juifs, même avec leurs rabbins mariés, pourraient y aboutir à des prêtres mariés, comme c'était du reste le cas jusqu'à l'an 1000 à peu près. Et alors là, autre innovation, à ce que je n'ose pas appeler des prêtresses, enfin des prêtres femmes. Et je me suis souvenu de ce dialogue entre le philosophe polonais Kolakowski, dialogue dont j'ai été témoin, et le pape. Alors le pape disait, à propos de cette féminisation possible du clergé, tous les apôtres étaient des hommes. À quoi Kolakowski lui a dit, oui, mais tous les apôtres étaient des juifs. Et néanmoins, aujourd'hui, beaucoup d'évêques ne sont pas juifs. Enfin, nous avons d'origine juive, notre admirable cardinal Lustiger, mais en fait c'est une très belle exception, mais qui confirme la règle. Donc je crois que là, il a quand même joué un rôle, ça n'enlève rien, c'est très grand mérite, un rôle réactionnaire, oui, et qui n'a pas fait de bien à l'Église, spécialement à l'Église de France.
Alors, nous n'avons pas parlé des femmes, nous allons terminer en évoquant une de ces grandes femmes de notre histoire, il s'agit de Jeanne d'Arc. C'est ce qu'il y a d'étonnant d'ailleurs dans votre livre, c'est que le seul personnage de l'histoire médiévale retenu, ou en tous les cas le seul personnage antérieur au XVIIe siècle, est le personnage de Jeanne d'Arc. C'est parce qu'elle est liée au XXe siècle, et c'est parce que c'est le XXe siècle qu'il a la canonisée.
Ben, c'est aussi un peu parce que j'étais ami de M. Contamine, qui est j'ai cherché des conférenciers de très haut niveau. Avec lui, j'étais sûr de mon affaire. Et je crois qu'il a vu. Jeanne d'Arc reste pour moi, même après ce texte, quelqu'un d'assez mystérieux, quelqu'un qui a des voix. Peu d'entre nous ont des voix, sinon peut-être à confondre ce qui se passe dans un rêve et c'est étant présenté comme une réalité. Je connais une dame, quand même rationaliste, athée, qui a eu un contact avec un fantôme. Enfin, c'est un cas exceptionnel, c'est une dame du CNRS, donc ça doit être sérieux. Et c'est, mais Contamine a fait de Jeanne d'Arc un personnage essentiellement mystique, avec un prestige qui débordait de beaucoup le cadre de la France. C'est un... Ce n'est pas la seule femme de ce genre. Il y a d'assez nombreuses femmes, mais qui seraient plutôt des princesses, même des femmes du peuple, comme Jeanne Hachette. Mais c'est une synthèse, cette femme, Jeanne d'Arc, assez extraordinaire. C'est une vierge aussi, comme la reine Élisabeth Ière d'Angleterre, dont la virginité était un élément très important de sa personnalité. Et peut-être aussi être une façon de nous dire qu'il n'est pas toujours ridicule d'être vierge ou pucelle. Robert Schumann lui-même sera peut-être canonisé un jour, d'une part à cause de son œuvre remarquable, et parce qu'il avait conservé jusqu'au bout son innocence baptismale. Et Newton lui-même était absolument furieux, qui était dans le même cas, qui est mort vierge. Il était furieux quand ses amis lui présentaient des épouses possibles, il les envoyait prompter avec la plus grande énergie.
Eh bien, Emmanuel Leroy-Ladurie, c'est sur cette innocence que nous allons nous quitter. Je rappelle que vous avez dirigé le livre « Personnages et caractères 15e-20e siècle » paru au PUF, un livre qui reprend en fait toutes les communications d'une année entière de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci à vous et à une prochaine fois.
Merci.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.